BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, il est 15h. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission BFM Crypto, le club. Aujourd'hui, on répond à toutes les questions que vous nous avez posées sur notre messagerie crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous posez toutes les questions qui vous passent par la tête, les questions fiscales, il y en a beaucoup en ce moment, des questions de fonctionnement des blockchains, des questions pour investir, de débutants ou d'investisseurs confirmés, crypto@bfmbusiness.fr. On répond à ces questions toutes les semaines, vous le savez, avec Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane.
Bonjour
Sarah. Et Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo.
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver évidemment dans cette émission. Une demi-heure de réponses précises à vos questions. C'est parti. Une première question de Jérôme qui nous a écrit pour vous Enzo. Que pensez-vous de la plateforme GoMining, une solution de cloud mining très prisée des utilisateurs qui permet de miner du Bitcoin, notamment à partir de mineurs NFT? Qu'en est-il de la sécurité, de la rentabilité, de la longévité, de la fiabilité, de l'agrément MiCA et des modalités d'imposition?
En gros, comment ça se passe? Alors, on va prendre ça de manière assez didactique. Comment ça marche? Eh bien, déjà, ce n'est pas tout à fait un mineur NFT. C'est-à-dire qu'avec cette société GoMining, vous allez acheter un NFT qui va vous donner en fait, le droit de propriété d'une partie d'une machine pour miner. Donc, en gros, c'est votre droit de pouvoir exploiter une partie de cette machine et donc le droit également en récupérer le fruit. Donc, entre guillemets, cette fois-ci, les Satoshi ou les différents bitcoins qui pourront être minés. Ce qui me paraît compliqué dans ce genre aujourd'hui de produits, c'est que vous avez des NFT, des tokens, du minage, et que fin de compte, pour le grand public, on arrive déjà dans une solution qui n'est pas très très simple, on va dire. En termes de réglementation, aujourd'hui, cette plateforme, elle n'est pas réglementée en France. Il me semble qu'elle a été réglementée rapidement à Chypre, mais pas encore pour MiCA. Donc, il y a quand même un risque réglementaire assez important, je trouve, personnellement, sur cette plateforme. Maintenant, en termes de rentabilité, alors, pour moi, c'est forcément lié en partie à la performance de Bitcoin et de la durée d'investissement sur laquelle vous allez vouloir exploiter ce type de machine. En plus de ça, vous allez devoir retirer les frais qui sont liés à la maintenance, les frais qui seront liés aux commissions, les frais qui sont liés au retrait de ces différents bitcoins. Et pour tout ça, ben, si vous voulez, moi aujourd'hui, je pense que ce sont des produits qui ont un risque très élevé. Ce sont des solutions innovantes, mais justement assez spéculatives et effectivement très risquées. Donc, pour la fiscalité, juste avant de passer à la conclusion, parce que quand même j'allais oublier ce point-là, vous avez plusieurs différents types de revenus pour le minage. Généralement en France, vous allez pouvoir opter pour celui des BNC, les bénéfices non commerciaux. En revanche, vont s'ajouter à tout ça les plus-values de cession sur les bitcoins que vous allez acquérir, les plus-values de cession sur les NFT liées aux machines que vous détenez justement via cette compagnie et probablement une déclaration de compte à l'étranger puisque GoMining n'est pas enregistré en France. Donc ça crée quand même une complexité assez forte sur la partie fiscalité. Et donc mon conseil, avant de se lancer, ça serait de demander des frais nets par an. Un ROI, c'est-à-dire un return on investment, combien est-ce que historiquement ça a rapporté pour les clients historiques, et vérifier les possibilités de retrait avant de pouvoir se lancer dans ce genre de solution.
On reviendra dans un instant sur vos questions fiscales. C'est intéressant ce que vous venez de dire parce que chaque situation a son pendant fiscal en France. C'est censé se simplifier année après année. On constate que ce n'est pas forcément le cas, en tout cas que les investisseurs ont beaucoup d'obligations déclaratives. Donc, faut vraiment se pencher sur ces questions-là dès qu'on fait vraiment un pas dans ce secteur-là en tant qu'investisseur. On va y revenir tout à l'heure. Geoffrey vous demande, Morgane, est-ce que Coinbase a toutes les autorisations pour évoluer en Europe dans les prochains mois ?
Tout à fait. Alors, Coinbase a reçu l'autorisation Market in Crypto Asset, donc c'est-à-dire MiCA, de la Commission de surveillance du secteur financier du CSSF du Luxembourg. Donc oui, Coinbase a bien la possibilité aujourd'hui d'offrir plutôt des services de crypto-actifs sur le plan européen. Et on parle d'un marché qui est quand même colossal. On parle de 450 millions d'habitants répartis sur 27 pays États membres de l'Union européenne. Donc oui, Coinbase a bien toutes ses agréations et autorisation pour pouvoir se développer dans les mois à venir sur l'Europe. Et on pourrait se poser la question, pourquoi le Luxembourg? Eh bien, Coinbase a donné deux raisons. Une juridiction qui comprend les besoins inhérents à notre écosystème, mais aussi qui excelle dans la clarté réglementaire. C'est la raison pour laquelle ils ont fait confiance au Luxembourg.
Voilà, et puis effectivement, il y a peut-être aussi des questions de timing. On sait que dans cette histoire, ce calendrier, on est en Europe, mais que finalement, les agréments MiCA ne vont pas au même rythme, ne sont pas attribués de la même façon suivant les pays. Et c'est aussi des choix, évidemment. Les entreprises et les plateformes ont été contraintes à faire des choix aussi dans ces pays. Une question d'Ahmed qui nous a fait parler juste avant l'ouverture de cette émission. Une question fiscale, justement. Est-ce que les plateformes crypto ont l'obligation de nous fournir à nous, les clients, une attestation fiscale au lieu de faire appel à d'autres plateformes pour calculer les taxes? Et dans ce cas, est-ce que ces plateformes calculateurs de la taxe sont acceptables par le fisc français? Car c'est très difficile, dit Ahmed, de calculer ses moins-values, ses plus-values pour un simple particulier. Enzo.
Effectivement, et plus vous allez avoir multiplié le nombre de transactions, plus vous allez complexifier votre calcul, en gros, de la plus-value imposable. S'il y en a, bien sûr. Je répondrai par plusieurs éléments. La première, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la question sous-jacente d'Ahmed, c'est de savoir si, comme par exemple à la star de différents PEA ou comptes titres qui sont directement aujourd'hui plugués et branchés aux impôts, quand vous éditez votre déclaration de revenus, vous avez déjà les cases pré-remplies. Je pense que c'est ça que souhaiterait Ahmed. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas obligatoire.
On souhaiterait tout
ça. Voilà, on souhaiterait tout ça, c'est très clair. Mais ça crée une complexité qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a aucune obligation de la part des plateformes de pouvoir vous fournir un IFU que vous pourriez directement envoyer à l'administration fiscale. Je rappelle que si vous avez fait une erreur dans le calcul de ce montant, ben, c'est sur vous que ça tombera, pas sur celui qui vous a produit le document, à moins qu'il ait une assurance et que ce soit le métier. Pour le coup, aujourd'hui, les plateformes, ce n'est pas leur métier, elles ne sont pas dédiées à fabriquer ce genre de documents, surtout que, par exemple, typiquement pour l'Europe, vous avez 27 pays, 27 fiscalités différentes, et qu'en fait, c'est juste un cauchemar à gérer, il faut juste l'avouer, comparé aux États-Unis où, pour le coup, là, vous auriez une réglementation fiscale de l'IRS qui est très claire et qui va couvrir l'ensemble des résidents américains. Mmh. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux être en attente, conserver l'ensemble de ces registres, c'est le point le plus important, de garder l'ensemble de l'historique et les traçabilités. Et puis, ben, visiblement, d'ici la rentrée septembre, on aura quelques avancées. Je pense qu'on en reparlera.
Oui, on vous redonnera des détails, évidemment, quand on sera vraiment sûr, parce que cette obligation des plateformes de fournir déjà des listes de transactions, elle devait arriver en début d'année, et effectivement, c'est pas le cas. Donc, on avance avec vous pour savoir, effectivement, comment avancent aussi les réglementations fiscales à ce niveau-là. Nicolas nous demande, pour vous, Morgane, quel est l'intérêt d'acheter un bien immobilier en crypto par rapport à une acquisition en monnaie fiat? Cela permet-il de ne pas payer l'impôt sur la plus-value crypto, par exemple? Bien tenté.
Alors, malheureusement, non. En fait, quand vous faites un achat aujourd'hui avec vos cryptos pour un bien immobilier, c'est un fait générateur d'impôts. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que résident français, vous allez être soumis à la fameuse flat tax. Si vous avez acheté une crypto et qu'elle a pris de la valeur, au-delà de l'exonération des 305 euros, vous aurez la flat tax sur la plus-value. Donc, malheureusement, pour échapper à l'impôt, ça va pas être possible. Par contre, j'en ai parlé, on a parlé d'une autre solution avec l'avocat Maître Arnaud Toiti du cabinet Hashtag à Paris. Et c'est vrai que nous, on aime beaucoup le prêt lombard. Ça peut être une option. Alors attention, il n'y a pas de garantie à 100% que ce ne soit pas de nouveau une opération qui puisse créer une imposition. Pour l'instant, c'est une zone floue. Néanmoins, ça peut être une piste. Alors, l'architecture d'un prêt lombard, comment ça fonctionne? Très simplement, vous avez beaucoup d'actifs, de crypto-actifs. Vous allez les donner en garantie auprès d'une banque qui va pouvoir vous donner une certaine liquidité, donc c'est-à-dire des euros. Et avec ces euros, vous allez pouvoir financer, par exemple, un achat immobilier. Alors, au niveau de la valeur qu'on va vous donner, ça va dépendre. Si vous êtes 100% en crypto, de mémoire, on était à 40 à 50%. Par contre, si vous avez de la bourse ou si vous avez de l'immobilier, là, on peut clairement aller chercher beaucoup plus. Mais donc, aujourd'hui, non, acheter un bien immobilier en crypto, c'est comme faire une cession d'actifs et c'est comme n'importe quel achat d'un actif tangible, que ce soit de l'immobilier ou non, ce sera la flat tax sur la plus-value.
Rien ne vous protège de cette fiscalité, effectivement, pour le moment. L'élection présidentielle arrive dans moins d'un an et il y a des candidats qui ont dit qu'ils allaient baisser la flat tax. Alors peut-être que ça passera à Enzo pour compléter.
Non, pour rebondir, ce qui n'est pas juste, entre guillemets, au niveau européen, c'est que cette flat tax, par exemple, ne va pas exister au Portugal. Oui, pas exister en Allemagne. Donc, par exemple, moi, j'ai vu des montages où, fin de compte, vous avez, admettons, pour des gros portefeuilles, plusieurs millions en crypto, vous allez pouvoir acheter, on va dire, un quart de la valeur d'un bien en euros au Portugal, y habiter 6 mois, et un jour devenir résident fiscal portugais et compléter le reste du paiement en crypto-monnaie sans avoir de fiscalité du coup de plus-value à payer en France. Attention, si vous souhaitez revenir en France ensuite, bah vous allez vous faire rappeler par la patrouille et ça va être assez violent, je pense. Donc ce sont des pratiques que je ne conseille absolument pas, mais en tout cas certains font preuve d'imagination aujourd'hui sur des cryptos dans des pays où malheureusement on ne joue pas dans la même cour, encore une fois, en termes d'attractivité. C'est oui, le gros problème.
Et c'est vrai, et c'est pour ça que ça fait... C'est pas étonnant que ça fasse partie des arguments de campagne de certains candidats. En tout cas, ça attirera certainement les investisseurs. En crypto, en Belgique, c'est quoi la flat tax? C'est quoi l'imposition sur les sorties de crypto?
Oui, tout à fait. Alors nous, ça dépend de quelle catégorie vous allez en fait ressortir par rapport à la fréquence de vos achats, par rapport à votre patrimoine aussi. Est-ce que vous n'avez que des cryptos? Est-ce que vous avez de l'immobilier? Et en fait, ça va dépendre de ça. Si vous êtes un bon père de famille, chez nous, ça peut être 0%. Néanmoins, il y a une super note de Pardo Weaver qui est arrivée. Donc on est au minimum maintenant 10%. Pour les spéculateurs, c'est plus ou moins 33%. Et par contre, les professionnels, les mineurs, les traders, c'est 50%. Donc nous, ça dépend de la catégorie.
Il y a une complexité aussi chez vous. Hein,
c'est toujours très complexe en Belgique.
Ce calcul. Une question de Semi. Est-ce que vous avez des arguments pour les gens comme moi qui hésitent à investir dans la crypto? Moi, je suis dans l'or physique depuis les années 2000. Je fais ma DCA tous les mois en Napoléon par contre. Quand je m'intéresse à la bourse, les impôts me freinent et la crypto est incompréhensible. Oui. Effectivement. Enzo.
Et oui, alors, de manière générale, moi, je suis conseiller en investissement, donc on n'est pas là pour vendre des produits. Donc, vous forcer et vous dire acheter du Bitcoin, c'est absolument pas une bonne solution. En premier conseil, j'ai pas vraiment d'argument. Le premier conseil, c'est d'abord, on n'investit jamais dans ce qu'on ne connaît pas, que ce soit les cryptos, que ce soit des actions, des obligations, etc. Il faut absolument apprendre à maîtriser l'actif avant d'investir dessus. On va dire, c'est assez basique. Donc, si on ne maîtrise pas cela, la deuxième chose, ça va être se former avant d'y aller. Comme ça, on va pouvoir déjà balayer l'ensemble des spectres de ce genre de classe d'actifs. La troisième chose, ça va être d'y aller progressivement. Morgan en avait déjà parlé la dernière fois. Ça va être d'y aller avec 5 euros, 10 euros. Tester les processus de bout en bout, de A à Z. Et puis, en fait, si je perds mes 10 euros, c'est toujours embêtant, mais c'est pas si grave. Et j'aurais pu quand même tester et expérimenter. La dernière chose, une fois qu'on est à l'aise, ça va être d'y aller dans des proportions qui sont propres à son profil personnel. Si j'ai 10 000 euros que j'ai économisé toute ma vie et que je mets ces 10 000 euros sur Bitcoin, c'est probablement pas une bonne idée. Si j'ai 100 000 euros et que j'investis 5 000 euros, et que je voudrais dire, je suis père de famille de deux enfants, ça a déjà un peu plus de sens
plus
en termes de proportion par rapport à ce qu'on souhaite investir. En revanche, j'ai 20 ans, je viens d'avoir un petit héritage, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié, je peux prendre beaucoup plus de risques. Et en fait, tout dépend toujours. Il faut bien se connaître soi-même déjà quand on investit. Dans la technique ensuite, entre l'or et le Bitcoin, vous avez des similitudes assez intéressantes qui ont fait que Bitcoin aujourd'hui est très apprécié. C'est d'abord l'offre limitée, je pense. Le fait que le nombre de Bitcoin soit limité, tout comme l'or. Vous n'avez pas d'émetteur central non plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'État ou de gouvernement qui imprime les Bitcoins, tout comme l'or est récupéré aujourd'hui par des sociétés généralement privées, etc. Ça joue un rôle de potentielle réserve de valeur, encore un petit peu à prouver aujourd'hui dans le temps, puisque Bitcoin, vous avez 15 ans de recul, alors que l'or, vous avez 5000 ans. Quoi. Ouais. Donc, en termes de recul, c'est quand même assez différent. En revanche, vous avez l'apport d'Internet dans cet actif, et donc l'échange quasi instantané d'un n'importe quel endroit de la Terre pour 10 euros, peu importe le montant. Ça, c'est une révolution, qu'on le veuille ou non, et je pense que c'est ce qui va faire que ça marchera dans le futur, et les banques aujourd'hui adoptent déjà cette technologie. Donc, un argument, c'est qu'aujourd'hui, la finance, d'une manière générale traditionnelle, shift, alors c'est pas le bon mot, mais en tout cas se décale progressivement en termes d'infrastructure vers des technologies blockchain et crypto parce qu'elles sont plus rapides, moins chères, plus efficaces, vous avez la traçabilité, etc., etc. Donc, faut le voir comme un actif de diversification, je pense, à investir doucement au début. Et ensuite, l'argument, je pense que vous le ferez vous-même, tout simplement.
Exactement, il faut tester, on le dit souvent dans cette émission. Une question qui revient souvent, qui nous est posée par Laurie, comment est créé le Bitcoin Morgan? Vous, on vous la pose souvent, cette question.
On me la pose souvent, et c'est vrai que quand on veut comprendre Bitcoin, c'est intéressant, effectivement, de comprendre son émission, parce qu'il y a des particularités, justement, à Bitcoin. Alors, la manière dont est créé Bitcoin, en fait, c'est une récompense qui va être donnée aux mineurs. Qu'est-ce que c'est un mineur? En fait, c'est des petites machines qui travaillent 24 heures sur 24 et elles ont pour motivation, pour incentive, de toucher du Bitcoin en gagnant un bloc. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une création de Bitcoin qui est programmée dans tous les nouveaux blocs qui vont être rajoutés sur la blockchain principale de Bitcoin. Alors, ça fait beaucoup d'infos, mais de manière générale, il faut comprendre que Satoshi Nakamoto, qui a écrit le livre blanc le white paper le 31 octobre 2008, il a prévu de faire quelque chose de précis sur Bitcoin, c'est de le rendre rare. C'est la différence, on a l'opposé des monnaies fiduciaires, des monnaies fiat. Et pour avoir cette rareté programmée, les 21 millions de Bitcoin qui seront à jamais créés, date butoir 2140, eh bien il y a une division de la production de Bitcoin. Et cette division, elle a lieu tous les 4 ans. En fait, si on veut être vraiment technique, c'est pas tous les 4 ans, c'est tous les 210 millièmes blocs sur la blockchain de Bitcoin. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au départ, quand on avait un nouveau bloc sur Bitcoin, on gagnait 50 Bitcoin par bloc, les mineurs. 4 ans plus tard, c'était 25. Aujourd'hui, on en gagne 3,125 Bitcoin par bloc. Et avril 2028, c'est le prochain halving. Donc, de nouveau, on aura une division. Et donc là, il y aura 1,56 et des poussières Bitcoin par bloc qui seront créées. C'est-à-dire que la récompense des mineurs est divisée en deux, mais ça permet vraiment d'avoir cette rareté programmée. Donc ça, c'est la manière aujourd'hui dont est créé le Bitcoin, puisque les mineurs, ils touchent non seulement des transactions, ça c'est du Bitcoin qui existe déjà, mais ils touchent aussi ce fameux Bitcoin qui vient d'être fraîchement créé, frappé, émis. Et ça c'est par rapport au halving qu'on peut savoir le montant exact. Donc c'est comme ça qu'est créé actuellement le Bitcoin.
Avec 21 millions d'unités au maximum, le dernier étant en 2140.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on se rapproche beaucoup plus du prochain halving, puisqu'on a à moins de 100 000 blocs par rapport au halving qui est prévu donc pour avril 2028. Et si je ne me trompe pas, je crois que ce sera le bloc 1 million 50 pour être exact.
Voilà toutes les informations et effectivement, vous pouvez continuer à nous poser les questions une fois qu'on vous a répondu sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Baptiste nous demande, que pensez-vous d'investir dans des Bitcoin Treasury Company type Capital B en France? Enzo.
Et oui, c'est un peu la grande mode qu'on a hein, qui nous vient des États-Unis. Alors selon moi, c'est assez spéculatif pour le coup, hein, puisque vous n'achetez pas du Bitcoin directement, mais des actions cotées liées à une société qui va détenir des Bitcoins dans sa trésorerie. Donc, ce n'est pas le business model central, c'est de la gestion de trésorerie. Et je pense que ça peut être intéressant dans le cas de certaines problématiques pour des investisseurs français. Typiquement, j'ai pas de cash, tout mon argent est dans un PEA ou un compte titre. Et la seule manière que j'aurais pour m'exposer à Bitcoin, du coup, ça serait via des ETF, des actions, des produits structurés, limite, on peut imaginer bientôt. Et donc, ben, pour le coup, là, je vais pas avoir 36 000 solutions. Je vais pas pouvoir acheter Bitcoin en direct. Mmh. Donc, passer par un proxy comme une société, comme typiquement ce genre de société, j'ai pas le nom, Capital B,
oui.
Ça peut être une bonne solution, surtout que ce qu'on a vu, c'est que l'entreprise de Michael Saylor, MicroStrategy, a parfois surperformé Bitcoin en termes de performance dans des moments de hausse assez euphoriques. Et donc, fin de compte, que la corrélation, en tout cas celle de l'action, était plus élevée, donc plus de performance sur cette action. Donc ça pousse pas mal de sociétés à se lancer. Attention quand même à l'effet de mode. Moi, il y a quelque chose que j'aime pas dans ce modèle, c'est que ça se finance par de la dette, généralement, et que donc, vous allez rajouter par-dessus du risque Bitcoin-crypto un risque de management, un risque de dette, un risque de dilution, un risque réglementaire, enfin, tout le risque lié à une société cotée, en plus de ce que vous avez sur Bitcoin. Donc, dans le cas de Capital B, je me suis renseigné, ils ont levé 15 millions d'euros la semaine dernière, donc un autre risque, moi, qui me fait penser, c'est que toutes ces sociétés émettent de la dette ou lève des fonds à vitesse grand V pour acheter le plus en plus de Bitcoin. Et fin de compte, la performance sera corrélée à la performance de Bitcoin. Donc le modèle fonctionne à partir du moment où Bitcoin, enfin en tout cas la performance de Bitcoin, augmente plus vite que la dilution que vous allez avoir en détenant ces parts d'action. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère être clair. Donc attention juste au rythme à laquelle ces sociétés-là font rentrer des nouveaux investisseurs et mettent de la dette, etc. Puisque ben, si vous avez justement plus de dilution que de performance sur Bitcoin, ben, c'est un coup d'épée dans l'eau. En fait.
Encore une fois, il faut se connaître en tant qu'investisseur, à la fois quand on écoute aussi les dirigeants de ces entreprises-là. Bon, il y en a qui sont très confiants, même sur l'avenir, même si Bitcoin baisse énormément. Éric Larchevêque vient de clore The Bitcoin Society, hein, qu'il a ouvert il y a 6 mois, en disant qu'il y avait notamment, c'était en raison des conditions de marché.
Michael Saylor, de ce côté, lui, expliquait depuis des années que jamais il ne vendrait des bitcoins. Mais en fait, quand vous avez énormément de dettes et que le marché dévisse à un point que vous n'aviez pas anticipé, le seul moyen que vous allez avoir pour rassurer vos investisseurs, c'est de vendre une partie de vos bitcoins.
Ouais.
Et c'est ce qu'il a dû faire, malgré le fait qu'il ait dit que jamais il ne ferait. Donc, en fait, ça reste toujours hypothétique, hein, ce que veulent bien donner comme direction les grands noms de cet écosystème. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer sur de l'achat de trésor, parce qu'en fait, c'est que de la trésor. Et en fait, s'il n'y a pas de réelle, de vraie valeur générée, autant acheter Bitcoin direct.
Exactement.
C'est mon avis.
Oui, évidemment, vous n'êtes pas le seul à le dire sur ce plateau. Valentin, vous demande Morgane, j'ai perdu mon portefeuille physique, que faire?
Oui, alors c'est toujours intéressant de rappeler que nos cryptos ne sont pas sur un portefeuille, elles sont sur la blockchain. Donc le premier réflexe, c'est de se dire, est-ce que j'ai toujours accès à mes phrases de récupération? Donc c'est 12 à 24 mots que l'on va obtenir quand on va ouvrir pour la première fois un portefeuille. Pourquoi est-ce que ces mots, ils sont indispensables? Donc c'est des mots aléatoires en anglais que vous allez recevoir. On conseille toujours de les sécuriser en dehors d'Internet. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de photos, on ne se les envoie pas par mail, c'est très important, parce que dans notre écosystème, on utilise en fait une cryptographie dite asymétrique. C'est-à-dire que pour chaque crypto, j'ai deux clés qui sont liées à cette fameuse crypto. Une clé qui va être publique, une clé qui va être privée. Elles ont deux fonctions fondamentalement différentes. La clé publique, elle me permet de recevoir des actifs. La clé privée, par définition, elle me permet de dépenser mes actifs. La clé publique, je peux la partager avec tout le monde. C'est comme un IBAN. C'est une suite de chiffres et de lettres. Tout le monde peut m'envoyer des cryptos 24 heures sur 24 sur la blockchain. C'est un des avantages. La clé privée, par définition, je ne peux pas la donner. C'est comme la clé de votre maison. Vous n'allez pas la donner à quelqu'un parce qu'en fait, on peut vider votre maison. Donc ça, c'est fondamental. Eh bien, ces fameuses phrases de récupération, ces seed phrases, pass phrases, on a différentes manières de les appeler. Elles vous donnent accès à vos clés privées. Donc si vous avez toujours accès à ces dernières, aucun problème. Il vous suffit de recommander un portefeuille tangible, corporel, soit la même marque que vous aviez précédemment, soit une autre marque qui est compatible avec le nombre de mots de passe que vous avez, et vous allez toujours pouvoir récupérer vos actifs parce qu'en fait, ils sont sur la blockchain. Donc en conclusion, si vous perdez votre portefeuille, ce n'est pas grave, vous ne perdez pas vos cryptos. Par contre, si vous perdez l'accès à vos phrases de récupération, là, effectivement, ça peut engendrer la perte d'accès à vos actifs.
Voilà, effectivement. Si vous voulez une façon de mettre vos cryptos sur une clé, sur un portefeuille à vous, je reparle d'Éric Larchevêque, mais son dernier livre explique dans les détails la méthode exacte, où mettre ses enveloppes, où mettre ses phrases, c'est hyper bien fait. Je vous conseille de le lire en tout cas, vous ne le faites pas, mais en tout cas, ça montre à quel point, effectivement, ces phrases et ces façons de faire sont intéressantes. Michel nous demande, je souhaitais avoir un complément de réponse qu'a apporté Enzo à la question que j'ai posée début mai concernant les UTXO. Mmh. À la fin de sa réponse, il précise qu'il est intéressant de faire une transaction pour concentrer les multiples petits UTXO pour avoir moins de frais de transaction par la suite. De quoi s'agit-il et comment faire exactement? De même, est-ce que faire du DCA hebdomadaire entraîne de multiples petits UTXO?
Et oui, malheureusement, c'est vrai que le DCA est une très bonne stratégie. Malheureusement, ça va effectivement entraîner de multiples UTXO et donc complexifier les transactions que vous aurez à faire prochainement avec votre portefeuille Bitcoin. Alors l'idée est simple, hein, quand je dis que vous allez pouvoir faire une transaction pour en gros réparer tout ça, c'est de profiter d'un moment où le frais de réseau par exemple serait un petit peu plus vite pour simplement créer un autre portefeuille Bitcoin et envoyer tous ces Bitcoins sur un nouveau portefeuille par exemple. Cette transaction-là, simplement, va cumuler l'ensemble de ces UTXO sur un nouvel UTXO qui sera lié à ce nouveau portefeuille. Et donc, vous allez proprement remettre d'aplomb, en gros, votre sac. Puisqu'il faut imaginer qu'en fait, un portefeuille Bitcoin, c'est un coffre-fort dans lequel vous mettez toutes vos pièces. Vous avez des pièces d'un centime, de 2 centimes, de 5 euros, etc. L'idée de pouvoir prendre ce coffre et de le renvoyer vers un autre, c'est qu'en fait, vous allez transformer toutes ces pièces en un billet, d'un coup. Et donc, fin de compte, pour les futures transactions, ce sera beaucoup plus simple. Parce que je vous rappelle que les frais de transaction sur Bitcoin ne sont pas liés au montant, mais à la complexité de l'opération. Et donc, plus vous avez une opération qui est simple avec moins d'UTXO, moins ça coûtera cher. Donc, quand vous faites du DCA, ce que je vous conseille, c'est pas à chaque fois que vous avez fait votre opération, les renvoyer vers votre portefeuille, mais attendre un montant qui vous corresponde, 500, 1000 euros, 2000 euros, en fonction de votre capacité d'investissement, et de le faire une fois par mois, tous les deux mois, pour éviter de multiplier ce nombre UTXO, tout simplement.
Oui, c'est ça. Ne stressez pas, vous ne mettez pas la pression. Non. Effectivement, ça a son importance. Une dernière question, il nous reste 2 minutes, Morgane. Quels sont les ordres d'achat les plus intéressants en crypto, nous demande Luc, et dans quel cas sont-ils utiles?
Oui, alors déjà, on a des ordres qui sont manuels et puis on a des ordres qui sont 100% automatiques. Donc ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Ça va dépendre en fait de la plateforme. Ça va dépendre de la plateforme que vous avez choisie. Quel est le panel de choix qu'elle vous offre? Je vais parler de 3 ordres, mais c'est vrai que ça dépendra un petit peu de la plateforme que vous avez décidé d'utiliser pour voir si elle vous en propose un ou plusieurs. Le premier, c'est le plus connu, c'est l'ordre au marché. L'ordre au marché, c'est simple, je viens d'ouvrir mon compte sur une plateforme, je vérifie mon identité, je dépose des euros et j'achète directement une crypto à l'instant T. Donc c'est vraiment dans le présent, c'est instantané. Le deuxième ordre, il est un petit peu moins connu des débutants et des novices, c'est l'ordre limite. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un déclencheur et cette fois-ci, on est plutôt sur un horizon futur. Le déclencheur, ça va être un prix précis d'une crypto. Par exemple, j'ai envie de me positionner et je me dis, bon, je comprends que le marché est un petit peu volatile des crypto-actifs. Peut-être que cette crypto pourrait descendre en prix dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans quelques mois, 5, 10, 15, 20% plus bas. Eh bien, je mets un petit ordre et même si c'est une fraction de seconde, eh bien, je vais pouvoir acheter cet actif beaucoup plus bas. Alors, certaines personnes vont me dire, je ne trouve pas les ordres limites sur ma plateforme. Je vais prendre la plus connue, Coinbase. Effectivement, quand vous allez sur la homepage, vous ne retrouvez pas ce type d'ordre. Il y a une petite subtilité, il faut cliquer sur le mode Advanced, c'est en bas à gauche de votre écran, et là, ça vous ouvre le Coinbase Advanced. Donc, c'est des outils un petit peu plus pour les traders, pour les professionnels, mais en tant que particulier, on peut aussi les utiliser. Oui. Et là, vous avez différents types d'ordres. L'ordre marché dont j'ai parlé, l'ordre limite, vous en avez d'autres. Je vais me limiter à 3 parce que je pourrais en dire beaucoup.
Oui.
Mais là, vous pouvez retrouver des ordres que vous ne retrouvez pas sur la homepage traditionnelle, et parfois, ça coûte moins cher. Et le dernier, c'est le DCA. Enzo, on a parlé un petit peu
plus tôt. Vous aimez bien le DCA. Hein.
Le dollar cost averaging, on achète toujours un actif pour la même fréquence, peu importe son prix. Ça permet d'avoir un prix moyen qui est intéressant. Et en conclusion, on peut évidemment mélanger les 3 ordres. Je peux faire un DCA, mettre des ordres limites et aussi acheter au marché.
Voilà, vous avez votre début de réponse. Luc, continuez à nous écrire crypto@bfmbusiness.fr et nous, on continue à vous répondre toutes les semaines avec Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360 et Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse.
BFM Business, BFM Crypto, le club.